Bon, on étudie la sagesse de Salomon. On fait un petit résumé de la vie de Salomon. On a commencé la semaine passée. Aujourd'hui, on va voir la chute de Salomon. Donc, la semaine passée, on a plutôt vu le règne de paix et tout ce que Dieu a donné à Salomon pour bénir tout Israël, en fait. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui a causé sa chute et quelles ont été les conséquences. La semaine prochaine, on va voir un résumé de l'Ecclésiaste, un des écrits de Salomon. Ensuite, on va rentrer dans les Proverbes. On va voir le thème de la sagesse, le thème du travail, la parole, l'argent, tout ce qui se passe à la maison, les relations parents-enfants, les relations de couple, et à la fin, tous les proverbes qui entourent le concept de la modération dans notre comportement, dans notre consommation, dans nos paroles même. Mais je ne sais pas, quand on parle de Salomon, quelle est la première idée qui vous vient en tête? Ça peut être soit que c'était un roi très sage, ou pour d'autres, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes et qu'il a causé finalement la chute d'Israël. Mais il faut savoir que pendant toute la première moitié de son règne, il l'a consacré à des grands projets de construction. Il a passé 7 ans pour construire le temple. Donc, il était pas mal occupé, là.
Sans compter que David, son père, avait tout préparé.
Oui. Même s'il y avait déjà tous les matériaux, là, ça a quand même pris 7 ans à construire le temple. C'était tout un job, là. Puis après ça, il a construit sa maison, puis il a passé 13 ans pour la construire. Donc, finalement, pendant 20 ans, la moitié de son règne, parce qu'il a régné 40 ans, pendant 20 ans, il a été occupé par des grands projets. Et un homme actif, d'habitude, a moins le temps de penser à des niaiseries, là. Il semble que pendant ces 20 ans-là, son cœur était attaché à l'Éternel. Il semble que la loi sur le culte était suivie. Et le résultat, on le voit, le pays était dans la paix. C'est pendant ces années-là que la reine de Saba est venue le visiter, que plusieurs rois et des sages venaient le voir aussi, l'entendre. Puis ça a été la gloire de Salomon qui était la gloire d'Israël à la gloire de l'Éternel. Même la reine de Saba a dit, « Wow, l'Éternel est grand puis il aime son peuple pour t'avoir mis à la tête de ce peuple-là. » Puis ça a été un temps de paix, où les Israélites étaient vraiment dans la paix comme presque un paradis terrestre. Et il semble que pendant ces 20 années-là, il y avait une seule femme, la fille du Pharaon. Il y avait juste une femme. Et pourquoi la fille du Pharaon? Bien, on lit dans 1 Roi 3:1, « Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Égypte. Et il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'amena dans la cité de David. » Donc, c'était quoi le but? Ouais, c'est de la politique, ça. La diplomatie, puis entretenir une bonne relation. Jusqu'à un certain point, ça a fonctionné, ça a amené la paix, puis le commerce était florissant. Il n'y a pas eu de guerre entre l'Égypte et Israël. Mais est-ce que c'était une bonne chose qu'il marie la fille du Pharaon?
Non, ça rappelle
de la femme étrangère. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un indice qui le montre? Bon, bien, stratégiquement, c'était une bonne chose, mais il semble que c'était... Bon, on va s'attarder un peu sur la stratégie, c'était bon. Parce que ça dit que le Pharaon, roi d'Égypte, était monté pour s'emparer de Gézer, qui est une ville forte, là. Il avait incendié, il avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis, il avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, une ville forteresse un peu. Là. Donc, on voit déjà, la Bible prend la peine de souligner un effet bénéfique de cela, de l'alliance qu'il avait eue avec le Pharaon.
Mais c'était contre la loi de l'Éternel, par exemple. Pas se marier avec des non-juifs.
Hein? L'auteur de Rois nous laisse libre de juger si c'était une bonne chose ou pas. Mais dans Chronique, on voit un détail. Ça dit, « Salomon fit monter la fille du Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait construite. » Donc, il a construit une maison pour qu'elle aille habiter là. « Car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » Ça veut dire quoi, ça?
Pas israélite.
Oui, c'est ça, je pense.
Ça faisait pas partie du peuple, puis même l'enceinte du temple, autour du temple, il y avait un endroit pour les non-juifs. Il fallait qu'ils aillent juste là. Ils ne pouvaient pas aller n'importe où. Là.
Donc, Salomon, c'est pas qu'il n'était pas conscient, là, qu'il fallait que le peuple reste saint, puis que lui aussi devait être saint. Parce que ça, c'est un indice de cela, qu'il était conscient. C'est une bonne chose, dans le fond, qu'ils ne veulent pas que la fille du Pharaon habite là. Mais ça montre qu'il était insouciant, là, parce que, comme dit Isaac, il était conscient que son mariage n'était pas saint. Il y avait quelque chose d'impur dans son alliance.
Ça ne crée pas des bonnes relations de mariage quand tu dis à ta femme, toi, tu n'es pas pur.
Ouais. Tu ne pourras pas habiter ici parce que l'arche de l'alliance est venue, puis tu n'es pas sainte. C'est le seul indice qu'on a dans le texte qui montre que Salomon savait qu'il y avait quelque chose de pas correct, là. Même si, à court terme, il n'y avait pas de mauvaises conséquences. Au contraire, ça semblait stratégiquement intelligent de sa part. Mais Salomon avait ouvert une porte, puis ça a été une femme étrangère. Puis finalement, ça a été un piège, parce que justement, avec le peu d'informations qu'on a, là, on dirait que ça a été profitable. Il a marié une femme étrangère, il a pris le risque, puis il dit « Ah, finalement, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas de mauvaises conséquences. Au contraire, j'en tire des bénéfices. » Pourquoi pas continuer? Pourquoi pas répéter ça? Puis il a répété ce modèle-là, ce pattern-là. Puis on lit dans 1 Roi 11, À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel, comme son père David. Est-ce que vous vous souvenez même qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par accepter de construire des hauts lieux pour d'autres dieux, là, même pour Moloch, pour que ces femmes puissent adorer leurs dieux. Peut-être qu'au début, c'était une bonne intention. Là. C'était pour respecter comme leur religion. Là. Mais finalement, il s'est laissé prendre au piège, puis il est allé jusqu'à lui-même servir ces dieux-là, même construire des lieux pour Moloch.
Oui, j'ai une question. Lorsqu'il dit de sa vieillesse, il avait quel âge?
Dans les 80. Là,
il est mort à quel âge?
Malgré que dans le contexte,
il avait l'impression qu'il avait autour de 45 ans.
Mais il a régné 40 ans. Le candidat dans sa vieillesse, ça semble être plus vers la fin de son règne. Je ne sais pas quel âge qu'il avait quand il est devenu roi. Mais en tout cas, ça dit quand même que c'est vers à la fin de ses jours. Le règne de Salomon, c'est quand même un règne considéré un règne de paix où le peuple a servi l'Éternel. Ils ont été bénis. Mais peut-être que ses mariages, ça a été progressif. Là. Ils n'ont pas tout marié dans une même année. Là. Il y a eu 300 femmes, 700 concubines.
Il a fallu qu'il y en ait plusieurs durant la même année. Il n'a pas vécu 300 ans.
Non, c'est sûr. Il y en a eu plusieurs pendant la même année. Il a peut-être fait des mariages de batch. Ouais.
Il y avait beaucoup de manigances politiques là-dedans.
Ouais, il n'a peut-être pas fait une cérémonie de mariage pour chaque femme. Mais en fait, il y avait un harem aussi. Là. C'est ça que ça veut dire. Il n'en a peut-être qu'il a même pas rencontré. L'indication qui est donnée sur la fille de Pharaon, c'était pour faire alliance avec l'Égypte. Donc, on doit comprendre que les autres femmes, la plupart, c'était pour ça. Mais il a développé un amour pour les femmes, puis il n'était jamais satisfait, il n'avait jamais assez.
Je dis que le texte dans Deux Rois, je dis clairement qu'il aimait les femmes.
Oui, c'est ça. Mais ça s'est développé par la suite. Parce que, comme je disais, pendant les premiers 20 ans, qu'il était occupé à faire tous les travaux, là, il semble qu'il y avait juste une femme. Et il s'est laissé entraîner.
Mais c'est dommage parce que la fin de sa vie, c'est ça qui reste dans nos mémoires.
Oui, c'est malheureux. Oui, on juge la vie de Salomon par rapport à comment il a fini. Mais c'est une chose normale, je pense. C'est comme ça que même un chrétien est jugé, là, s'il persévère jusqu'à la fin.
C'est ça. Mais considérer la fin de leur vie, mais nous, on doit considérer la fin de notre vie, faire attention. On gâche tout le témoignage qu'on a essayé de garder toute notre vie. Là. Si on laisse tomber nos bras, au lieu de continuer le combat, on gâche toute notre réputation.
Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est malheureux.
Et parlons de Salomon, ce qui m'a marqué, parce que généralement, on retient qu'il a eu 300 femmes, mais il n'a pas eu 300 femmes. Il a eu 700 femmes et 300 concubines. C'est vraiment le sens complet. Ça veut dire qu'il était, oui, il était vraiment porté vers les femmes.
OK, 700 femmes, 300 concubines. J'ai dit, chiffre en envers.
Oui, moi-même, c'est resté dans ma tête aussi qu'il avait eu 300 femmes, mais en fait, il a eu 700 femmes et 300 concubines.
Mais comment c'est arrivé? Pourtant, c'est l'homme le plus sage sur la terre, là. Dieu lui a donné toute la sagesse. Comment lui a pu tomber dans une folie comme ça? Est-ce qu'on peut dire que Dieu ne l'avait pas prévenu? En fait, c'est quoi le problème fondamental? C'est qu'il a tout simplement désobéi au commandement de Dieu. Et peut-être que sa sagesse, même dans un sens, a comme été un piège. Il s'est cru plus intelligent, capable de juger lui-même.
Dieu l'avait prévu, comme il dit Israël, de ne pas faire alliance par mariage avec les infidèles.
C'est ça. Donc, ça s'appliquait à lui. Mais vu qu'il était intelligent, peut-être qu'il pensait qu'il était un peu à l'épreuve du danger, là, que pour lui, ça ne le dérangerait pas. Je me souviens d'un chrétien à Sherbrooke qui évangélisait dans les bars. Il disait, mais c'est dangereux. Il y en a qui lui disaient, fais attention, là, tu te tiens dans les bars les soirs. Là. Oui, mais je vais évangéliser. Et finalement, il est tombé là-dedans, lui, avec, il est devenu alcoolique. Alors, c'était peut-être juste un prétexte au début. J'ai l'impression que c'était quand même une bonne intention, mais il pensait qu'il était au-dessus de ça, là. Et c'était quoi les commandements de Dieu, justement? Donc, Dominique a mentionné, de manière générale, ne pas se marier avec une étrangère. Mais il y avait des prescriptions données spécifiquement pour le roi. Quelqu'un pourrait nous lire Deutéronome 17, 14 à 20, s'il vous plaît.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras « Je veux établir sur le roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras un roi, sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit « Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de ses paroles qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir lu avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël.
Bon, mais si on y va dans, en ordre, c'était quoi la première consigne concernant le roi? Oui, c'est ça, il devait être un Israélite. Là-dessus, Salomon, c'était correct, là? Choisi par Dieu. Première alliance qu'il a faite, c'est avec l'Égypte. C'est la première chose qu'il a faite dans ses alliances, là. Pas un grand nombre de chevaux, après ça, pas un grand nombre de femmes.
Oui, mais pour l'argent et l'or, Dieu lui avait promis que Dieu aurait sauvé.
Oui, Dieu lui a donné. Ce qu'on comprend ici, bien, on va y revenir, là, mais c'est qu'il ne doit pas rechercher beaucoup d'argent et d'or.
Non plus que le peuple prenne un riche comme roi. Il ne fallait pas que ce soit un critère pour qu'il devienne roi, là, qu'il soit riche.
Peut-être dans ce sens-là. Mais je pense que c'est plus après. Parce que c'est une fois qu'il est roi qu'il peut faire une alliance avec l'Égypte ou avoir un grand nombre de femmes.
Ouais. Ou que le peuple peut l'enrichir. Parce que, tu sais,
ouais.
Ou que lui peut taxer le peuple pour s'enrichir.
Oui, c'est ça.
Il doit être soumis aussi à la loi.
Oui.
Il doit la lire régulièrement afin d'y être soumis.
C'est ça. Puis il doit même se faire sa propre copie. Donc, on comprend, à l'époque, c'était le Pentateuque, là, les cinq premiers livres, jusqu'à Deutéronome, là, indiqué par là qu'il devait lui-même l'écrire. Mais c'est une bonne chose. Là. Quand tu écris, ça te rentre dans la tête. Là. Puis il devait lire à tous les jours de sa vie. C'était important que le roi soit celui qui est le plus plongé dans les Écritures, parce que c'est lui qui dirigeait le peuple. Oui, il était là pour conduire le peuple, transmettre les consignes de Dieu au peuple. Puis transmettre les demandes du peuple à Dieu. Dans un sens, il agissait comme un prophète, même un sacrificateur.
Toutes ces recommandations-là sont faites avec des « afin que ». C'est « afin que son cœur se détourne point, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, afin que son cœur ne s'élève pas, la loi, tout ça. » Donc, il y a des « afin que ». Et quand on regarde ça, bien, il a transgressé tous les « afin ».
Ouais. Et afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume. De son vivant, le royaume est resté unifié, là, mais tout de suite après, avec la venue de son fils, le royaume a été divisé en deux, là. Israël du nord et Juda au sud. C'est de la faute de Salomon. Donc, si on les regarde un par un, pas un grand nombre de chevaux. Un nombre de chevaux, en fait, ça indique la puissance de l'armée. Donc, Dieu dit, je veux pas que le roi s'attarde, mette son cœur à avoir la plus puissante armée. Ben pourquoi?
C'est l'Éternel qu'on battra pour
vous. Ben, c'est sûr. Quand un roi regarde la puissance de son armée puis se compare avec les autres nations, il risque très probablement là, de tomber dans l'orgueil et de mettre sa confiance dans ses propres forces. Puis ce qui est un peu ironique, là, c'est que son père, David, a écrit là-dessus. Même il a écrit sur chacun des points qu'on va voir. Là, mais... Ah oui, David aussi, il a fait un grand recensement. Là. Mais quand même, dans sa vie, David était un homme selon le cœur de Dieu. Là, puis il dit, les uns, c'est à leur char, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Ou en qui nous nous confions.
Quand on se confie en nous-mêmes, ça nous amène à abandonner Dieu.
C'est ça que ça dit. Hein? Son cœur n'a pas été tout entier à l'Éternel. Son cœur a été partagé, entre autres, partagé sur le désir de se glorifier par la puissance de ses chevaux. Puis c'est ça, Salomon, il n'a pas obéi, clairement. Là. On lit dans un roi, « Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers, qu'il dirigea dans des villes de garnison et à Jérusalem près du roi. » On amenait d'Égypte les chevaux de Salomon. Dieu avait même clairement dit, « Retournez pas en Égypte aller chercher les chevaux. » Lui, il a envoyé ses serviteurs là-bas. Ça veut dire qu'il y avait comme une ambassade israélite là, en Égypte pour faire le commerce. Ce que Dieu avait clairement défendu. Il était craint, il était respecté pour sa grande sagesse, mais il était craint aussi pour sa force militaire. Là. Mais Dieu ne voulait pas ça. En tout cas, on dirait que Salomon il s'est confié dans cela.
Bien, ça détournait le regard du monde entier de l'Éternel à Salomon, que l'armée soit grande, puis tout ça.
Oui, ça ternissait la gloire de l'Éternel, c'est vrai. Deuxièmement, pas un grand nombre de femmes. Ce qu'on comprend, c'est que Dieu interdisait d'avoir un harem, pas compliqué. Certains vont dire, bien, c'est juste que Dieu interdit la polygamie. Mais je pense pas. C'est clair dans la Bible que la volonté de Dieu, c'est un homme et une femme qui s'unissent là, dès la Genèse. Là. Mais ici, Dieu, quand il parle du roi qu'Israël va avoir, ce qu'il interdit, c'est qu'il ait un harem, comme tous les rois avaient. C'était une manière de montrer. Ils avaient réussi dans la vie.
Il faut dire que David, son père, était un homme qui a eu plusieurs femmes. Par rapport à Salomon et rien là, ben, je veux dire quand même...
Oui, dans ce sens-là, il n'a pas été parfait, David, non.
La réflexion qu'on a, quelle différence qu'il y a entre 10 et 700, tu sais. Il y a quand même une différence, sans dire, là, mais c'est plusieurs femmes pour moi.
C'est vrai. Bon, mais ici, on doit avouer que le texte nous laisse juger nous-mêmes s'il obéit ou pas, là, si c'était dans la volonté de Dieu, mais je ne sais pas si David était conscient que ce n'était pas correct. Mais le texte, c'est seulement pour Salomon que ça dit qu'il y a eu un grand nombre de femmes. Là, c'est vraiment pour qu'on comprenne qu'il a enfreint directement le commandement de Dieu dans Deutéronome. Puis ça l'a obligé, forcément, à faire des compromis, même moraux, avec les nations. Tu sais, tu vas visiter les beaux-parents, là, puis tu vois qu'est-ce qu'ils font. Tu peux pas être constamment en train de leur dire c'est pas correct puisque vous faites, l'Éternel n'aime pas ça. Hein. Donc, tu es obligé, finalement, de plier un peu sur tes principes. Mais il devait faire ça avec toutes les nations avec qui il a fait des alliances. À un moment donné, tu es obligé de faire des compromis, même jusque chez toi, là. Sinon, la fille, elle écrit à son père, hey, c'est épouvantable ce qui me fait vivre ici, là. En tout cas, on peut s'imaginer tous les compromis qu'il a dû faire jusqu'à, finalement, autoriser les cultes idolâtres. C'était pas volontaire de sa part, mais il a été pris dans le piège. Donc, le risque d'avoir le cœur partagé, le risque de tomber dans l'immoralité sexuelle aussi, dans la convoitise, c'est ce qui est arrivé. Salomon n'a pas obéi. Un roi 11 le souligne, là, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, Édomites, Sidoniennes, Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc, entraîné par la passion, par la convoitise, les passions sexuelles. Mais clairement, ici, on a comme un exemple à ne pas suivre. Et pas beaucoup d'argent, c'était aussi une bénédiction de Dieu qu'il a été riche. Parce que Dieu a dit, puisque tu ne demandes pas pour toi de l'argent, la gloire, la puissance, mais tu demandes la sagesse, tu vas être l'homme le plus sage sur la terre. Mais en plus, je vais te donner la richesse, la gloire. Mais pourquoi Dieu interdisait que le roi ait beaucoup d'argent et beaucoup d'or? Je pense qu'il montrait le cœur. Il ne voulait pas que le roi cherche à être riche. Parce que là, inévitablement, tu tombes dans la cupidité, la convoitise. Comme Paul dit à Timothée, c'est la racine de tous les maux, de tous les péchés. Tu es prêt à faire toutes sortes de péchés pour t'enrichir davantage. Tu n'es jamais satisfait non plus de ce que tu as. C'est une course sans fin. Et David l'avait compris, même s'il était très riche, David n'était pas un homme assoiffé de richesse. Puis on lit dans Psaume 62, « Ne vous confiez pas dans l'oppression, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, c'est-à-dire le pillage. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Mais il n'a pas su transmettre ça à son fils, je ne sais pas, là. Salomon, lui, n'a pas obéi. Il n'a pas suivi les traces de son père. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Tout le service à boisson du roi de Salomon était d'or. C'est pas très modeste, hein? Toute la vaisselle de sa maison de la forêt du Liban était d'or fin. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Puis on lit que le trône avait 6 marches. Ça devait être quelque chose de grandiose. Là. Avec un lion de chaque côté, des 2 grandes statues de lion. Puis il y avait des plus petits lions sur chacune des marches, donc 12 lions en tout. Mais on voit qu'il ne se prenait pas pour n'importe qui. Là. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Juste un talent, c'est beaucoup. Là. Ce qui arrivait à chaque année. Outre ce qui provenait des prospecteurs, du trafic, des commerçants, ainsi que tous les rois alliés et les gouverneurs du pays. Bon, vous dites peut-être, est-ce que 666, c'est un hasard? On ne sait pas, il n'y a aucune indication, mais moi, je pense que ce n'est pas un hasard. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Mais pourquoi cette précision-là? Ben, à l'époque, l'auteur, il a juste écrit le chiffre, je pense, là. Mais c'est inspiré par le Saint-Esprit, puis c'est quand même étonnant de voir que le nombre de la bête, c'est 666 dans l'Apocalypse, et c'est associé justement au commerce, que ceux qui refusent la marque de la bête se voient interdire le droit d'acheter ou de vendre. En fait, on doit voir que je pense que dans toutes les générations, le diable est toujours à l'œuvre derrière, là, et il utilise la soif de l'argent pour pousser à pécher. Puis on peut voir le diable derrière la bête dans l'Apocalypse, on peut le voir évidemment derrière la soif derrière la cupidité de Salomon. Même probablement celui qui a écrit un roi, n'avait aucune idée non plus, là, mais je pense que le Saint-Esprit, il y a des chiffres qui reviennent dans la Bible. Là. Ça donne comme ça, là, mais je pense que ce n'est pas une coïncidence. Et Dieu applique son jugement, finalement. Même si ça a été un règne de paix, il y a des conséquences. Et Dieu suscite des adversaires à Salomon, qu'on lit. Donc Dieu a mis dans le cœur de certaines personnes de se révolter contre Salomon. Ce qui est bizarre, ce qui est un peu ironique, c'est que l'Égypte cache certains de ses adversaires-là. Donc quand Salomon sait qu'il y a un adversaire, ils vont se réfugier en Égypte. Finalement, l'Égypte, le premier pays avec qui il a fait alliance, finalement le trahit, ou héberge en tout cas ses adversaires. Et éventuellement, après la vie de Salomon, le royaume va être divisé. Et seul Juda reste aux descendants de David. Mais tout ça, ça se passe seulement après la vie de Salomon, parce que Dieu avait promis à David qu'il ne le rejetterait pas. Même il a dit clairement que c'est pour honorer la promesse qu'il a faite à David, qu'il ne punit pas directement Salomon pendant son vivant. Dans ce sens-là, il a peut-être été repentant. Là, ici, il y a un vide, on ne sait pas. Mais j'ai l'impression que oui, puisqu'il a écrit l'Ecclésiaste, et dans l'Ecclésiaste, il montre toute la vanité d'accumuler de l'or, puis de la vanité de tout ce qu'on peut rechercher sur cette terre, puis qu'il est très conscient qu'un jour, on va rencontrer notre Créateur, le juge. J'ai l'impression que l'Ecclésiaste montre un peu sa repentance, là, après. Puis ça expliquerait pourquoi Dieu ne l'a pas directement puni pendant son vivant.
Si on lit dans le Chronique, moi j'avais remarqué, lorsqu'on compare tous les rois, qu'à part pour expliquer pourquoi la division des rois du royaume en deux, qui a été causée par Salomon et avec plusieurs femmes, Salomon n'est pas parlé d'une façon négative, parce que les autres rois qui ne sont pas fidèles à Dieu, dans Juda, sont parlés de façon négative. Je pense
c'est vrai.
Qu'il y a une repentance à la fin.
Oui, j'ai remarqué, dans un cours, il fallait qu'on lise Roi au complet, là, puis après ça, Chronique au complet, puis on dirait que le but de Roi, c'est de souligner plus les péchés dans la vie des rois qui allaient en dégradant, en s'aggravant, pour expliquer pourquoi que finalement Israël s'enfonce dans le péché et un jour est déporté. Chronique, lui, le message, c'est le même, là, mais très souvent, à la fin, il y a une indication que le roi s'est repenti. Puis le but de Chronique, c'est pour montrer que oui, Israël s'est enfoncé dans le péché, puis c'est pour ça qu'ils ont été déportés, mais que la repentance est toujours possible. Puis que si finalement ça a pris tous ces siècles-là, avant que Dieu punisse de manière très sévère, c'est parce qu'il y avait toujours une repentance, puis Dieu allait toucher le cœur, puis pousser à la repentance. Puis même un coup de déporté, c'est encore possible de se repentir, puis que Dieu allait guérir son peuple. Donc probablement que la Chronique indique par là une fin heureuse pour Salomon. Mais il y a eu quand même des conséquences. C'est par son fils, puis Chronique insiste que c'est plutôt par Roboam, son fils, à cause de lui, de sa stupidité, là, que finalement le royaume s'est divisé.
C'est tout le temps le pattern, ils disent tout après les autres rois, comme son père Roboam, même si c'était pas directement, mais c'est toujours comme le modèle de chute, comme Roboam, leur père.
C'est vrai, mais c'est pas comme Salomon, c'est ça. Donc malgré tout, le règne de Salomon, même s'il y a eu la chute, là, c'est ce qui a provoqué la chute d'Israël, la scission, mais je pense que ça a bien terminé.
Même si David, on dit que c'est un roi selon le cœur de Dieu, même si on dit que son cœur a toujours été à l'Éternel.
Non, il a péché gravement.
Mais ce qu'on dit de Salomon, c'est que Salomon dit que, qu'il aimait l'Éternel, mais que son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, comme David, son père.
C'est vrai, c'est quand même le constat final. Oui, c'est vrai. Puis, c'est intéressant aussi, dans Samuel, Dieu a dit, « Si ton fils, quand il a fait alliance avec David, je vais être comme un père pour ton fils, je vais prendre soin de lui. Mais s'il se détourne de moi, je vais le corriger par la main des hommes. » C'est ce qui est arrivé. Dieu a suscité des adversaires contre lui. Il ne l'a pas corrigé par une invasion de sauterelles ou par un tremblement de terre ou par le feu du ciel. Là. C'est vraiment des ennemis qu'il a suscités. Et c'est un avertissement pour nous. Donc, les trois dangers, on les applique à nous-mêmes. Pas beaucoup de chevaux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, pas beaucoup de chevaux, hein?
En fait, ça démontrait la puissance. C'était comme une démonstration de la puissance de ce roi-là qui a eu beaucoup de chevaux. Fait que, cherche pas à être puissant. Hein.
Oui, à la base, ça peut être ça. N'a pas cherché à. Premier principe, si quelqu'un veut se lancer en politique parce qu'il veut être le big boss, là. Ou même d'être un entrepreneur pour avoir la plus grosse compagnie possible, là, le plus de puissance possible, ça peut être malsain.
Je pense pas que ça a un rapport vraiment avec la nombre de chevaux. Je pense que ça veut vouloir dire qui veut que moi, ma confiance soit pas dans mon nombre de chevaux ou ma grosse compagnie, là, mais que ma confiance soit à l'Éternel, premièrement.
Oui, c'est ça.
Si j'ai une petite compagnie ou que j'en ai une grosse, ma confiance est dans l'Éternel.
Oui, c'est surtout au niveau de la confiance en Dieu et pas la confiance en ses propres forces. Inévitablement, tu tombes dans l'orgueil. Il y a un autre avertissement concernant l'argent en tant que tel. Mais ici, les chevaux... Oui, ça expose, c'est sûr, ton succès, là, mais ça expose aussi ta force. Là. C'est un peu comme une assurance. À l'époque, les gens à Jérusalem pouvaient se coucher le soir en paix. On sait qu'il y a des milliers de chevaux, il y a des milliers de soldats qui nous protègent. Ça serait étonnant que l'ennemi débarque pendant la nuit. Ça devenait leur assurance, finalement, ce qui leur donnait la paix. Dieu ne voulait pas ça. Donc, le danger, c'est le même pour nous. Là. Oui, il y a l'orgueil, mais deuxièmement, il y a de mettre la confiance dans nos propres forces. Et on peut essayer d'accumuler toutes sortes de choses pour se sécuriser, être en paix.
Sur ce qu'on disait sur les psaumes que Salomon écrit, là, j'ai regardé, là, parce que ça m'intéressait. Finalement, il y en a écrit deux. Lesquels, je ne sais pas, j'ai cherché, mais je n'ai pas écrit.
Bien, il y a 127, en tout cas, là. C'est dit, psaume de Salomon.
Il y en a écrit 18 autres, supposément, mais il n'y a pas de preuve de ça. Mais ils ne sont pas dans la Bible, fait que...
OK, ouais, c'est dans les livres de sagesse de Salomon, là.
C'est ça. Mais il y en a écrit deux, en tout cas, qui sont...
Donc, mettre notre confiance en nos propres forces, ça peut être un piège. Même, c'est correct d'avoir des assurances, là, de s'acheter des assurances, mais il faut sonder notre cœur, là. Est-ce qu'on met notre confiance là-dedans ou on met notre confiance en Dieu? Même avoir un système d'alarme à la maison, c'est correct, là. Mais en quoi est notre confiance, là? C'est bon même de sonder notre cœur pour voir si c'est correct ou pas, là, chacun dans notre situation. Le deuxième avertissement concerne ne pas avoir beaucoup de femmes. Ça veut dire quoi, ça, pour nous? Littéralement, ça veut dire pas avoir beaucoup de femmes, là. C'est ça. Faire attention à la convoitise, les plaisirs. Mais je pense qu'on peut l'élargir avec tous les plaisirs du monde que le monde offre. Ça peut être les passions dans le domaine sexuel, là, ou les amoureux même, là, le flirt au travail, ça, c'est toujours présent, là. Je me souviens, une firme d'ingénieurs, c'était tous des gars, puis il suffisait qu'il y avait une femme dans le bureau, là. Là, les gars, ils changeaient tout d'attitude, là, puis ils tournaient autour, puis... Des gars mariés, là, tu sais. Ouais, mais ici, je pense que c'est plus au niveau personnel. C'est pas tellement sur ce que les gens vont penser, mais sur la soif d'assouvir ses désirs, là. Donc, directement, la consigne d'avoir un mariage sain, là, un homme et une femme. Mais je pense qu'on peut appliquer le principe aussi à toute chose qui pourrait nous rendre... le cœur partagé. On sait qu'on est en train de faire un compromis. On se dit, mais c'est pas grave, il reste toujours une place pour Dieu. Et Dieu, je le garde plus important. Ouais, mais si tu as le cœur partagé puis que tu aimes quelque chose qui est clairement contre la volonté de Dieu, là, éventuellement, c'est Dieu qui prend le bord. Ton désir, il ne sera pas assouvi, lui, puis tu vas le faire grandir de plus en plus. Pas beaucoup d'argent. L'amour de l'argent, là, il y a toutes sortes de péchés là, qui sont entraînés par ça, mais en fait, c'est de ne pas vouloir s'enrichir au détriment de l'amour pour Dieu. C'est très rare qu'un désir de s'enrichir est vraiment sain, que c'est vraiment parce qu'on veut servir Dieu. Si c'est le cas, tant mieux, là. Ça veut dire qu'on peut bénir nos frères, mais c'est rarement le cas. L'argent, ça te donne un pouvoir, là. Ouais, c'est égoïste.
Comment l'égoïsme sur nous autres? Quand on voit les trois, beaucoup de chevaux, c'est l'orgueil. Beaucoup d'affaires, c'est un cœur partagé. Beaucoup d'argent, c'est comme l'égoïsme, donc...
C'est vrai. Les trois, c'est centré sur soi-même.
Il y a l'exemple qu'on a vu il y a quelques semaines de l'homme riche qui voulait être sauvé, qui est allé voir Jésus, qui lui a dit, va voir tous tes biens, qui vient sur moi. C'est pas facile. Un homme qui est riche n'est pas donné tous ses biens, qui dépendent uniquement de l'éternel. Ça, c'est quelque chose.
Ça me fait penser à M. Le Tourneau. Des années de ça, il y a M. Le Tourneau qui a écrit un livre là-dessus. Lui, il est devenu homme d'affaires, puis il est devenu très, très riche. Mais il est resté dans sa petite maison qu'il avait au début. Il s'est jamais racheté une autre maison, quoi, parce qu'il pouvait, il avait les moyens. Au début, il donnait 10 % de son salaire à Dieu, mais à la fin de sa vie, il vivait sur 10 % puis il donnait 90 %.
Moi, ça me fait penser au verset, au premier commandement. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Puis lui, Salomon, c'est le représentant de la voix de Dieu, comme tel. Il désobéissait carrément au premier commandement.
Hey, c'est impressionnant. De toute sa force, il n'aimait pas Dieu de toute sa force, parce que sa force était dans les chevaux. De tout son cœur, non, son cœur était partagé. Puis son âme, bien, il y avait une soif de s'enrichir. Fait que vraiment, il était partagé. Là. Mais pour d'autres, là, la cupidité ou l'avarisme, là, ça peut être très personnel. Les gens ne savent pas combien la personne a, mais un peu comme Séraphin, là, t'as une soif. Là, finalement, il meurt avec des millions dans son compte de banque, là, puis ça a servi à rien. C'est de la folie, là. Ce qu'on peut voir comme avertissement, c'est que même quelqu'un de très intelligent, même avoir un bon discernement, les meilleures intentions, même la plus grande expérience, même Salomon, il connaissait foule de choses sur tous les domaines dans le monde, là. Ça ne nous dispense jamais, tout simplement, d'obéir au commandement de Dieu. Salomon, il savait, là. Parce que je ne sais pas s'il avait recopié la loi, comme c'était dit, puis qu'il la relisait tous les jours, mais il savait que Dieu avait interdit cela. Mais il s'est cru plus sage, capable de juger par lui-même. Pourtant, là, la sagesse, le début de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Fait que là, il a manqué. Là. C'est quand on dit que c'est le début de la sagesse, c'est que c'est le fondement. Fait qu'on voit Salomon dans toute sa sagesse qui finalement a fait une folie de se détourner de Dieu parce que la base n'était plus là. Et la base, c'est de craindre Dieu, ce qu'il dit. Dieu avait averti, si tu fais ça, c'est ce qui va arriver. Donc l'obéissance, finalement, quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, même si c'est le plus intelligent et le plus sage, là, il va être moins sage que quelqu'un qui n'a pas d'instruction, mais qui obéit à Dieu. L'obéissance de Dieu rend sage.
Ça dit que le péché est fort. Le péché a amadoué le plus sage des hommes.
Oui, c'est ça. C'est comme une emprise là, sur toi. Là. C'est comme un virus qui a infiltré tout le corps. Là. C'est plus fort que nous. Donc, c'est une leçon pour nous de lire la Bible à tous les jours. Sinon, on l'oublie. Si c'est important pour le roi, là, c'est important pour nous. En psaume 119, j'ai l'impression que c'est David qui a écrit. Il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur, ou ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » C'est pas juste un constat qu'il fait, c'est un engagement. C'est quelque chose auquel on devrait s'engager aussi. C'est une prière.
Moi, la question que je me dis, ce que je possède, est-ce que ça me possède? Est-ce que je me laisse posséder parce que je possède? Je le laisse à Dieu. Je donne à Dieu ce que j'ai vraiment. Si ça ne possède ce que j'ai, il y a un problème. Mais si ce que j'ai, je le laisse disponible pour servir Dieu, c'est correct.
C'est une bonne question à se poser. Quelqu'un voudrait prier pour terminer?